Salut les smarts et salut les marks et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis l'amiral Larmbar et comme d'habitude on se retrouve pour causer de NXT, le show jeune de la WWE. Alors aujourd'hui on va parler donc du show du 16 mai 2018. Alors je suis de retour en live puisque je suis revenu de vacances. J'ai passé de bonnes vacances, vous allez me dire vous vous en foutez. Eh ben très bien, on va parler de suite du show. Salut à Galuf qui vient nous rejoindre sur le chat en direct sur YouTube. N'hésitez pas à interagir durant l'émission et le show. C'est des petites questions, des suggestions ou autres. On peut effectivement en discuter en live, c'est l'avantage. Alors, cette semaine, NXT, un show comme d'habitude assez fun, des matchs vraiment cool, même très cool. J'étais assez surpris de voir un de ces matchs qui est teasé dans le titre de l'épisode. Mais on commence avec le retour du fils prodigue, du face le plus over peut-être de NXT, à savoir Johnny Gargano, puisque c'est la musique de Johnny Wrestling qui commence. Rappelez-vous, il avait été sauvagement agressé encore une fois par Tommaso Ciampa il y a peu. Et finalement, c'est ce dernier qui vient, c'est pas Johnny Gargano. Et oui, encore une fois, il essaie de jouer avec le public, qui lui rendra très bien avec des chants très importants de you suck, bien mérité, faut dire ce qui est, puisque Ciampa commencera à dire que Johnny Wrestling, il est parti, Ciampa a gagné la guerre, Johnny avait gagné le dernier match, c'est seulement une bataille, lui il a gagné la guerre, il a brisé le cœur de Johnny en le trahissant il y a de cela un certain temps. Il a brisé son esprit en faisant ses mind games semaine après semaine. Et il a finalement brisé le corps de Johnny Wrestling. C'est fini, c'est terminé, on en est débarrassé. Sauf que arrive Candice LeRae, donc la femme de Johnny Gargano, qui est très affectée, comme on l'aura vu, par tout ce qui se passe. Elle prendra le micro. Et en demandant tout simplement finalement à Ciampa, mais qui es-tu? Je te reconnais plus, tu étais là à notre mariage, tu as vécu 2 ans avec nous, et je peux pas croire que tu sois le gros enfoiré que je vois depuis quelques temps. Mais c'est terminé, j'en ai terminé de pleurer, en étant passé à autre chose, puisque la seule chose qui est brisée ici, finalement, qui est cassée, Tommaso Ciampa, eh bien c'est toi. Ciampa rétorquera de toute manière, le garçon qu'elle appelle son mari n'est même pas la moitié de l'homme qu'il est. Qu'ils ont vécu, certes, pendant 2 ans ensemble, et il a pu constater que Candice LeRae était bien plus un mec que les Johnny Wrestling. Et à leur mariage, alors que le prêtre allait prononcer le mariage comme étant officiel, il s'est toujours demandé pourquoi une femme comme elle allait épouser un... On ne saura jamais ce qu'allait dire Tommaso Ciampa, puisque c'est une énorme baffe, une claque tonitruante que lui envoie Candice LeRae, qui décide que c'en est fini, elle part du ring, et donc rentre backstage, alors que Tommaso Ciampa lui adresse son sinistre bye-bye de la main. Donc on continue à builder le heel le plus efficace actuellement, je pense, de la WWE, au moins d'NXT. Mais c'est un heel à 100%, il n'y a pas une personne du public qui est pour lui, il se fait huer par 100% de la foule. La suite là avec Candice LeRae, on aimerait, en tout cas moi j'aimerais, je pense que je suis pas le seul, voit un match intergender entre les deux, puisque Candice LeRae, dans sa grande carrière sur le circuit indépendant, a été connue notamment pour faire beaucoup de matchs contre des hommes. Mais on sait que la WWE n'est clairement pas coutumière ni fan de ces matchs hommes contre femmes. Alors après, qu'est-ce que la suite? Un retour de Johnny avec qui va prendre la défense de sa femme? Je ne sais pas. C'est un peu dommage si ça en reste là au niveau de Candice. C'est intéressant l'angle qu'ils construisent avec elle qui est très affectée par tout ce qui se passe. On l'avait vu dans son match contre Bianca Belair qui était complètement off du match, en dehors du match. Elle s'est fait effectivement battre parce que son esprit était ailleurs. Mais ça serait dommage de l'avoir seulement cantonné dans le rôle de la femme un peu éplorée et triste. Donc j'espère qu'on aura quand même, je ne sais pas comment ils vont le tourner, mais une interaction un peu plus poussée pour Candice, qui n'a pas de programme finalement féminin. Elle est vraiment partie prenante de cette intrigue. Dans tous les cas, voilà, semaine après semaine, ils continuent à garder vivace cette rivalité entre Johnny et Tommaso. En tout cas, voilà, c'est niveau construction de personnage, on est toujours sur quelque chose qui est excellent. Moi, voilà, je ne goûte pas mon plaisir à chaque fois qu'on a l'un ou l'autre, ou bien le dernier, Johnny, qui est là, je pense, hors du ring pour un petit moment. Hein. Ils vont vendre, je pense, la blessure pendant suffisamment longtemps. Je pense qu'on ne le verra pas avant, à mon avis, quelques semaines avant le prochain takeover. Il faut effectivement vendre ce beatdown comme étant quelque chose de dramatique. La suite, eh bien, donc c'est chez les dames, on a Lacey Evans, la Lady of NXT, qui arrive avec un nouveau theme song, un peu un remix de son ancien theme song que j'aime moyennement, mais bon, pourquoi pas. Elle a l'air vraiment plus heel que jamais, puisque dès qu'elle arrive, elle commence à haranguer la foule avec hargne, elle flexe ses muscles de manière très, très posée, très dominatrice. Et ce soir, elle est contre Brandi Lorraine. Brandi Lorraine, si vous ne la connaissez pas, c'est normal, hein, c'est un peu une one-shot, comme on dit. Mais comme ils font NXT, je l'avais déjà dit il y a quelques émissions, j'aime bien que même les gens pour la soirée aient quand même une musique, un titantron. Ça les met un peu plus over, j'ai envie de dire, que juste les faire apparaître dans le ring, comme ça, avec l'annonceur qui nous dit « Ah bah tiens, il y a une machine qui est là ». À savoir que Brandi Lorraine, s'il y en a qui regardent parmi vous Impact Wrestling, vous l'avez reconnue, hein, puisqu'elle a travaillé pour Impact sous le nom de Ava Story. Donc, un match assez court, forcément, qui est là pour mettre over donc Lacey Evans, hein, qui fera quand même deux moves intéressants. Le premier, un moonsault du poteau de la deuxième corde. Donc, on l'avait pas vu faire de mémoire, en tout cas, ce genre de manœuvre athlétique, hein, qui ne fera pas, qui nous fait penser d'ailleurs à une certaine Charlotte, même si son moonsault n'est pas aussi beau que ceux de Charlotte. On apprécie cette prise de risque et ce dynamisme dans le ring. Et donc, elle gagnera avec son punch, hein, qui maintenant a un nom, le Women's Right, donc les droits des femmes, la droite de la femme plutôt, en l'occurrence. Donc victoire pour Lacey Evans, qui continue à s'installer comme étant peut-être la deuxième heel femme d'NXT, après Shayna Baszler, la championne. Après le match, alors qu'elle continuera à trash-talker le public, juste en dessous du titantron, elle se fera agresser par, eh bien, Kairi Sane, hein, la période princesse, la princesse pirate, qui a maille à partir avec Lacey Evans. Elle s'était fait puncher de façon heal il y a peu de temps. Donc là, Kairi Sane vient tout simplement remettre des points sur le i et égaliser les scores. Elle mettra Lacey Evans en position pour que Zayn fasse son insane elbow, mais Lacey Evans roulera en dehors du ring, ne se laissera pas avoir cette fois-ci. Kairi Sane fera son geste avec la longue vue, pour lui signifier qu'elle a toujours à l'œil. Donc voilà, là aussi, on continue de construire finalement le personnage de Lacey Evans en continuant de garder vivante cette rivalité avec la japonaise. Bah nickel, on s'avance vers un match plutôt costaud entre les deux. On continue à construire la carte, la division féminine. Moi j'aime bien, ça mange pas de pain, c'est pas très long et ça fait avancer les histoires et ça c'est cool. Petit segment à l'extérieur qui a été filmé plus tôt dans la soirée où on voit le champion Aleister Black, hein, donc en chemise et gilet, qui sera interviewé sur finalement les deux personnes qui la semaine dernière ont clamé être les futurs challengers pour son titre NXT, à savoir Velveteen Dream et le one and only Ricochet. Donc voilà, il dit simplement que, en gros, qui que ce soit qui gagne, soit c'est Dream, et ils ravivent leur rivalité qu'on avait adorée l'année dernière, ou alors ce sera Ricochet. Dans tous les cas, c'est eux qui deviendront la cible. Bref, voilà, petit segment tout court, voilà, qui montre un petit peu le champion, hein, qui est un peu absent des shows télévisés. J'espère qu'on le verra quand même la semaine prochaine. Qui ne fasse pas un petit syndrome Brock Lesnar, là, notre cher Aleister Black. Donc voilà, on en parlera de toute façon de cette rivalité Ricochet-Velveteen Dream pour le First Contender plus tard dans la soirée. Mais là, il est le moment de la conférence de presse hebdomadaire de Dakota Kai, hein, donc à l'extérieur du Performance Center, avec différents micros, différents smartphones qui sont dirigés contre elle. Donc on lui pose une question qui est un peu anodine, on s'en fout, je vais pas vous le raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on lui demande qu'est-ce qui se passe avec Nikki Cross, hein, puisqu'on l'avait vu la semaine dernière, elle était en maille à partir avec Shayna Baszler, et il y avait Nikki Cross qui était dans un coin, qui rigolait, complètement tarée comme elle est. Donc Dakota Kai dit, écoutez, franchement, moi je peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe dans la tronche de Nikki Cross, personne peut le dire, elle est complètement folle. Et ben c'est justement Nikki Cross qui arrive, qui va virer tous les journalistes, qui va elle-même sortir son portable, hein, Nikki Cross a un iPhone visiblement, et filmera Dakota Kai ultra près en lui demandant qu'est-ce qu'elle attend pour faire face à Shayna Baszler. Il faut qu'elle se serve de sa peur. Cette peur, en fait, peut être une source d'opportunité. Bref, fait face à la peur, fait face à Shayna Baszler, Dakota Kai qui restera comme d'habitude un peu comme un petit animal terrifié face à des phares de voiture. Bref, là aussi, on continue avec une petite vignette toute courte à construire cette histoire avec Dakota Kai face à Shayna Baszler et Nikki Cross qui enfin revient à NXT et qui va soit être la coach entre guillemets Dakota Kai, soit qui va lui montrer l'exemple en allant face à Shayna Baszler. Moi, personnellement, je penche un peu plus pour la seconde option. Et oui, Dolovan Barrière qui dit qu'on est en live super tôt. Eh ben oui, salut à toi. Et on est en live effectivement très tôt. Pour savoir quand on est en live, eh bien, faut s'abonner à la chaîne YouTube hein, ou bien être sur Twitter. Puisque à chaque fois on prévient sur Twitter quand est-ce qu'on est en live. Donc voilà, pour revenir à Dakota Kai et Nikki Cross, moi voilà, Nikki Cross contre Shayna Baszler, ça me ferait vraiment très plaisir. Je pense qu'on est tous, beaucoup de suiveurs d'NXT à adorer le travail de l'ex-membre maintenant de Sanity, dans le ring et en dehors du ring. Et là c'est plutôt intéressant ce triangle qu'ils sont en train de former. Nikki Cross la tarée, Shayna Baszler la heel dominante qui est un peu bully, et Dakota Kai qui est la fesse ou gentille, qui se retrouve en grande difficulté dans tout ça. Donc là encore une fois, niveau construction psychologique de personnage, c'est franchement très 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 cool. Donc on poursuit par ben voilà, ni plus ni moins le match attendu depuis la semaine dernière, que j'attendais pas cette semaine pour être honnête hein. Donc on avait vu la semaine dernière Ricochet et Velveteen Dream qui s'étaient toisés dans le ring, qui avaient changé pas mal de mots et de hargne, et on nous annonce ce soir le match hein, qui est tout de suite, moi je pensais pas qu'on aurait ce match là avant peut-être le prochain TakeOver ou un NXT avant TakeOver pour déterminer le first contender. Et c'est un match qui démarre très fort, vraiment, vraiment, très, très, très cool. Je vais pas vous le raconter, tous les spots, parce qu'il y a eu vraiment des séquences qui étaient fabuleuses, où, en gros, pendant la bonne partie du match, on nous raconte que l'un comme l'autre essaie de copier l'autre, ou du moins de s'éviter en faisant des flips, en faisant des manœuvres d'évitement, en prenant les uns des autres dans des surprises de soumission, en les brisant, en prenant des soumissions, bref. Très équilibré comme match, jusqu'à ce que Velveteen Dream pense que Ricochet fasse un saut à l'extérieur, puisque Velveteen Dream est à l'extérieur du ring à ce moment-là. Velveteen Dream essaie de le outsmarter en rentrant dans le ring, mais Ricochet le voit, rebondit sur les cordes, flip arrière et fait sa pose un peu super-héros, là, Iron Man, où il atterrit comme ça. À ce moment-là, Velveteen Dream revient dans le ring en glissant comme il le fait de façon un peu sensuelle, pensant prendre Ricochet, eh bien du coup, à revers. Et là, il se retrouve nez à nez à vraiment 20 cm de lui. Et là, on voit toute la maestria, notamment hein, de Dream, avant de la psychologie des matchs. Il y a une espèce de regard d'étonnement, genre, non, c'est pas possible, me dites pas que c'est pas vrai, en voyant ça. Et la suite, moment vraiment que j'adore, on avait eu un peu droit à ça dans son match contre Aleister Black, quand justement Black faisait la même chose en revenant en tailleur dans le ring. Et là, Velveteen Dream va plus faire parler son côté, sa dominance physique, domination physique, hein, il est plus grand, plus fort que Ricochet. Donc là, c'est une séquence où il va être beaucoup plus dans les coups dans le coin du ring. Bref, moi je dis, ok, ils sont en train de nous faire un classique là, en live, même pas en main event de NXT. Ben non, forcément il y avait une astuce. C'était un rêve ce match, mais ce rêve va prendre fin puisque c'est le croque-mitaine, le monstre Lars Sullivan qui va arriver, qui va totalement exploser les deux adversaires. Forcément, disqualification, le match n'aura même pas de résultat. Et Lars Sullivan qui va beugler toute sa détermination à dire que c'est lui le challenger légitime pour la ceinture championnat NXT, et pas Ricochet et pas Velveteen Dream. On en apprendra un peu plus tard dans l'émission, puisqu'on verra donc Cathy Kelly dans les backstage qui ira voir Ricochet qui toque à la porte de William Regal. Velveteen Dream arrive, dit hey, qu'est-ce que tu fais? Bah d'après toi, je veux Lars Sullivan, donc je vais dire à Regal, au general manager, que je veux Lars Sullivan. Eh bah écoute, je crois que toi et moi on a un truc en commun. Et les deux rentrent dans le bureau de Regal, et on apprendra que la semaine prochaine on aura un match Lars Sullivan Ricochet Velveteen Dream, mais pas une triple threat comme dirait Ringside, pas un triple threat, mais un handicap match, donc Velveteen Dream plus Ricochet contre Lars Sullivan. Ma foi, c'est booké très 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 fort hein, Lars Sullivan hein, ce monstre, voilà, moi j'ai adoré ce début de match, vraiment. entre les deux. Lars Sullivan qui arrive, c'est pas mal, parce que forcément, on n'allait pas avoir le gros match entre Velveteen Dream et Ricochet ce soir. Le fait qu'il le boucle dans un handicap match contre Lars Sullivan et les deux, comme je disais, c'est vraiment mettre Lars Sullivan sur un piédestal en termes de puissance, un peu un Braun Strowman du coin. C'est... Je sais pas, j'attends de voir, j'ai curieux de voir le match, comment ils vont tourner ça. Soit ils vont faire gagner Lars Sullivan, et ouais, clairement, c'est lui le challenger. Ça va être très dur, ça va être un peu un match d'épreuve contre Aleister Black, hein, pour le champion. Parce que ça veut dire que Lars Sullivan aura quand même surclassé deux adversaires qui sont vraiment... qu'en ont hein, dans le ring. Ou alors c'est Velveteen Dream et Ricochet qui gagnent, mais dans ce cas-là, qui sait qui devient le contender? Il faudra bien sûr les départager. Voilà, tout est ouvert, tout peut être possible. Je sais pas ce que vous en pensez sur vous sur le chat, qui gagnera en termes de pronos. Moi, franchement, je suis un foutu de le dire, parce que les deux histoires peuvent être intéressantes, et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est toujours bien booké à NXT, qui reste toujours la meilleure heure de catch hein, dans la WWE par semaine. Je trouve que c'est ça. Alors bien sûr, hein, le public est complètement déçu de voir ce match brisé, et c'est ça qui est bien joué pour mettre bien heel Lars Sullivan, c'était très bien joué. Un match moins attendu, en tout cas, qui suit, c'est Konnor Reeves, soi-disant le finest d'NXT contre Raul Mendoza. Donc Konnor Reeves débarque avec une nouvelle veste, qui est un peu mieux que la dernière fois, qui est un peu plus avec de la fourrure, etc., avec des bijoux plus imposants, avec un cas notamment en diamant, ce qui aide mieux à vendre sa gimmick, puisqu'avant il avait une chaîne toute pourrie, c'était bien naze. Donc un match assez disputé entre les deux. Raul Mendoza aura des séquences où vraiment j'ai cru qu'il allait gagner. Je me suis dit, ah tiens, surprenant. Parce que voilà, le luchador, comme on l'appelle, est vraiment très 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 bon. En tout cas, déploie un arsenal dans le ring qui est assez sympa, mais c'est quand même... à la fin, Konnor Reeves qui gagnera avec son Hawaiian Drop. Bon, voilà, moi ce qui m'a plus dans le match était la performance de Raul Mendoza plutôt que Konnor Reeves, hein, que je trouve encore très 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 moyen. Voilà, on essaie de nous pousser la ressemblance avec le Rock. Aux commentaires, non, j'adhère pas. J'adhère toujours pas à Konnor Reeves, même si là il a fait un effort sur sa tenue par rapport à la dernière fois. Je trouve que ça reste quand même très anodin. Voilà, encore une fois, Raul Mendoza était, je trouve, plus intéressant. On aura un segment qui m'a fait mourir de rire en backstage, puisque donc c'est les Heavy Machinery qui eux aussi jouent le jeu de la promo iPhone en se filmant comme ça en selfie, mais c'est filmé avec les pieds puisqu'ils sont sont quand même balèzes, hein, Tucker Knight et Dozer, et du coup la tête de Dozer qui prend tout le coin inférieur gauche qui m'a cadré au bord. Et on comprend moyennement ce qui raconte, ce qui bug. Ça parle de la fête des mères, puisque c'était la fête des mères dimanche dernier aux États-Unis. Donc ils commencent à parler comment ils aiment bien manger leur steak, hein, bien saignant, avec Dozy qui fait des cris comme ça, c'est juste mourir de rire. Puis là, ils croisent en couloir et bien TM61 qui les invite à boire un coup. Heavy Machinery qui dira on boit pas, on pickle pas avec les tricheurs, en référence et bien du coup au heel turn de TM61 contre les Street Profits. Hein. Voilà, du coup Shane Thorne répondra écoutez, oui, ça c'est normal, mais c'est pour avoir le goût de la victoire, hein, un truc que vous avez pas goûté visiblement récemment. Vous avez mangé plein de trucs, hein, vu que vous êtes super huge les gars, mais vous savez pas gagner. Et là, Dozovich qui fait « Ah ouais, eh ben si c'est ça, on vous prend la semaine prochaine, où vous voulez, quand vous voulez. » Non, c'est pas « anytime, anyplace », c'est, tu l'as dit, c'est la semaine prochaine, et c'est pas « anyplace », c'est à NXT, on le sait, quoi. C'est, voilà, donc, bon, voilà, Dozovich, je sais pas si c'était volontaire ou pas, ce passage-là, mais c'était du génie comique, hein, soit sur un accident heureux, comme on dit, ou bien voilà, une bonne écriture de ce personnage, moi, de Dozovich, qui me fait mourir de rire au niveau des gueules qu'il fait et la façon qu'il a de beugler, c'est juste fabuleux. Donc, on aura, voilà, il y a Galuf qui est aussi pareil, hein, qui est d'accord, Dozovich est trop drôle. On aura, certainement la semaine prochaine, hein, un match... certainement, parce qu'on sait pas, hein, anytime, entre Heavy Machinery et TM61 qui continuent effectivement leur build-up heal. Et il y en a besoin, puisque c'est l'info du smart de la semaine. En parlant d'équipe Heel NXT, je vais vous parler de Riddick Moss et de Tino Sabatelli, hein, les deux playboys riches qui ont eu un peu des troubles récemment, se sont séparés puisque dans un match, Sabatelli est parti, a laissé Riddick Moss se faire exploser par War Raiders, de bonne mémoire. Eh bien, les deux sont blessés et sont blessés gravement. Riddick Moss, lui, a un problème au tendon d'Achille et Sabatelli a dû se faire opérer à cause d'un problème au niveau des pectoraux. Et ben du coup, c'est à peu près 8 mois de convalescence pour les deux. Donc voilà, gros coup dur pour cette équipe. Hein. Apparemment, il y avait des plans pour les séparer ou faire une rivalité. On ne sait pas, on ne saura pas, en tout cas pas avant de nombreux mois. Donc voilà, c'est une équipe du roster d'NXT qui ne sera plus là pendant très longtemps. Donc, bien besoin d'avoir Team 6-1 en heel qui vient un peu rééquilibrer les forces. Donc c'était plutôt bienvenu. Donc bonne convalescence à Riddick Moss et Tino Sabatelli. On verra bien pour la suite quand ils reviendront, s'ils reviendront en single ou bien en équipe. Mais bon, dans tous les cas, ça sera pas avant un long moment. Et on passe suite à ça au main event hein, de la soirée, à savoir le match très logique suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est The Undisputed Era. Donc bien sûr Adam Cole, Baby, Kyle O'Reilly et Roderick Strong contre Pete Dunne, UK Champion, et Oney Lorcan et Danny Burch. D'ailleurs les deux, hein, Oney Lorcan et Danny Burch, qui débarquent avec un titantron uni, avec leurs deux noms. Donc on savait qu'ils étaient équipe déjà, mais là ils ont un titantron unifié. Et d'ailleurs Pete Dunne qui débarque avec une banane, hein, avec vraiment il sourit en reniant sa ceinture à l'arrivée. Je pense que Pete Dunne prend son pied en ce moment à ce qui se passe autour de lui avec NXT, avec son association avec Roderick Strong pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic, les matchs qu'on suivit qui étaient juste géniaux, et aussi actuellement la WWE est en Angleterre, donc je pense qu'en ce moment Pete Dunne est sur un petit nuage par rapport à il y a quelques mois où il était un peu dans les limbes après la hype du UK Tournament. Là vraiment il est partout voilà, dans des intrigues ou dans des matchs vraiment intéressants. Donc voilà, le match lui aussi ce soir était très très cool forcément. Donc on a cette dynamique, hein. On a Pete Dunne qui était pas mal confronté à Roderick Strong au début, hein, qui le trash talk, qui le mime, qui le singe pendant le match. Mais c'est avec Adam Cole, hein, que Pete Dunne aura plus de mailles à partir, notamment quand les deux entre guillemets se sortent du match, hein, quand Pete Dunne lui fait un superplex à l'extérieur, vers l'extérieur, et Adam Cole qui tient la tête de Pete Dunne pour lui faire effectivement une sorte de guillotine sur les cordes. Les deux seront out du match, donc restera les deux tag team. Donc Roderick Strong et Kyle O'Reilly, et de l'autre côté Oney Lorcan et Danny Burch. C'est très très disputé jusqu'à ce qu'il y ait un petit couac dans la Undisputed Era. Les autres vont y prendre avantage, notamment avec Oney Lorcan qui fait un double blockbuster sur Kyle O'Reilly et Roderick Strong, et à la fin donc c'est les deux qui vont gagner, Oney Lorcan et Danny Burch qui font le tombé suite à une combo à deux. Donc c'est l'équipe pas un Undisputed Era mais les autres qui gagnent, forcément sous le regard complètement choqué de Adam Cole. Quoi, on a perdu? Et c'était très bien, et je salue Monsieur Tom qui nous a rejoint. Galuf dit que c'était un match digne d'un takeover excellent. Ouais, on aurait pu voir ça, clairement, hein, dans un 3v3, dans un takeover. Il aurait fallu un peu plus de temps, mais dans tous les cas, la compétence au niveau du ring était là, la psychologie aussi, et c'était la bonne solution pour moi. Le Undisputed Era pouvait perdre là, puisqu'il n'y avait pas de titre en jeu, et aucun problème à justement les faire perdre pour pouvoir installer des gens en face. Et là, l'enjeu, c'était effectivement Oney Lorcan et Danny Burch, qui maintenant sont en position tout à fait légitime, selon moi, pour pouvoir avoir un match de titre pour les ceintures tag team contre effectivement Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Et pourquoi pas un match 1 contre 1 entre Pete Dunne et Adam Cole, le champion nord-américain versus le champion UK. Ça serait une très belle affiche, et franchement avec Pete Dunne qui sort que des bons matchs en single et qui notamment avait fait ces matchs magnifiques contre Tyler Bate l'année dernière, l'un des meilleurs matchs WWE 2017, le voir face à Adam Cole, ça serait juste génial. Donc moi je dis que ça s'écrit tout seul, c'est en place et ça serait vraiment excellemment bien joué, notamment pour les tag teams, puisqu'il y a les War Raiders qui montent, mais à mon sens ça serait une erreur de les mettre de suite maintenant contre, du moins pour le prochain takeover, contre le Undisputed Era, ça serait un peu trop précipité. Donc il faut des adversaires maintenant, et bien du coup Danny Burch et Oney Lorcan, ça paraît juste génial. Donc voilà qui conclut encore une fois un épisode d'Enexi assez rapide, niveau du rythme, des bons matchs, même s'ils ont été interrompus, on sait qu'on en aura d'autres, des segments qui font continuer à avancer, des storylines ou monter des psychologies de personnages, c'est ce qui fait la supériorité tout simplement d'NXT par rapport au reste des produits de WWE. Alors c'est sûr que le roster fabuleux qu'ils ont et seulement une heure, ça permet tout simplement de pouvoir varier d'une semaine à l'autre et de pouvoir mettre un dynamisme comme ça qu'on peut pas avoir sur un Raw 3 heures, mais juste c'est encore une fois la meilleure heure de catch tout simplement à WWE chaque semaine. C'est le moment de la question du Smart. Vous savez, chaque semaine, vous pouvez me poser une question, que ce soit par Twitter, que ce soit en commentaire de la vidéo précédente d'NXT. Et du coup, j'en prends une et on en parle à l'antenne. Et donc, cette semaine, la question, c'est par Twitter. Donc, c'est de Velvet in Dream. Alors, pas le vrai, le Velvet in Dream français plutôt. Donc, qui nous dit « Catch up CDC, vous savez quels seront les matchs au live event d'NXT à Paris ? J'y serai moi aussi. » Alors c'est cool, on pourra s'y voir si tu nous vois, cher Velvet in Dream, n'hésite pas à venir nous voir, puisqu'il y aura au moins IRM, il y aura au moins Hank, il y aura au moins moi, donc voilà, on y sera, c'est le 11 juin, il reste encore des places, c'est au cirque, ça va être super, et du coup on va parler de la carte, je vais vous montrer la carte annoncée pour l'instant, pour ce show, premier show français d'NXT. Alors si vous voulez absolument pas vous spoiler de quoi que ce soit, arrêtez le podcast là, parce que du coup je vais vous montrer la carte et peut-être que ça pourra indiquer d'éventuels spoilers sur des suites de rivalités ou autres. Bref, vous êtes prévenus, je vais afficher la carte maintenant. Donc, je commence par le bas de la carte, on nous promet un match d'équipe, donc Heavy Machinery contre Wesley Blake et Steve Cutler. Wesley Blake est un ancien champion tag team avec Buddy Murphy. Ensuite, on aura un match anglais, un contre un, Tyler Bate contre Zach Gibson. Donc Zach Gibson qu'on peut voir actuellement dans tout ce qui se passe à l'Angleterre, le tournoi UK de WWE. On aura un match par équipe féminin, Dakota Kai et Stephanie Newell, je vous en parlais la semaine dernière, Nixon Newell que j'adore, je suis content de l'avoir en live, donc la Team Kick, qui sera opposée à Lacey Evans et Bianca Belair. Ça promet une belle affiche, en tout cas dans le ring, il y a vraiment du brio et de la compétence. Ensuite, on aura Ricochet contre Velvet in Dream. Ah oui, en live on aura ce match, un contre un, ce sera fabuleux. On aura un Johnny Gargano, Johnny Wrestling contre Tommaso Ciampa, ça aussi en live ça va être génial. On aura la réédition du main event de ce soir, à savoir Oney Lorcan, Danny Burch, Piden contre le Undisputed Era. Là aussi, cet excellent match qui a conclu cet épisode d'NXT, on le reverra en live. Un match pour le championnat féminin Nikki Cross contre Shayna Baszler. Et un match NXT Championship, Aleister Black contre le monstre Lars Sullivan. Ça va être bon tout ça, ça va être très bon, sachant que ça sera pas longtemps avant le prochain takeover, il me semble. Donc il y a quand même de grandes chances que la carte reste comme ceci. Moi ça me vend du rêve, donc si vous n'avez pas encore pris votre place, eh bien il en reste visiblement. Voilà, il reste quelques places pour aller au show de NXT à Paris le 11 juin. Entre-temps, ce week-end, samedi, donc demain, 19 mai, il y a le show Raw, donc Main Roster, qui est à Paris, à Bercy. Moi, j'y serai pas parce que je suis en week-end en vadrouille, mais une partie d'équipe y sera. Donc, je sais qu'il y, a, il y aura, pareil, il y aura Ringside, il y aura Hank, il y aura Irem, il y aura, je crois qu'il y aura Giscal aussi. Vous savez, Giscal, celui qui le Roman Reigns boy, celui qui quand il a perdu Roman Reigns à WrestleMania, on a vu sa tête comme ça, ils seront là. Donc pareil, si vous les voyez, des copains de catch-up, n'hésitez pas à venir les voir et faire un coucou, ça leur fera plaisir. Et puis pour la semaine prochaine, le prochain NXT, n'hésitez pas à m'envoyer, comme Velvet in Dream, votre question pour que je puisse y répondre. Donc, petite question là de Galuf sur le chat. Est-ce qu'on va suivre donc BOSJ, qu'est-ce que c'est ? C'est le Best of Super Junior qui commence aujourd'hui. Donc, c'est un tournoi New Japan Pro Wrestling. Oui, je regarderai des matchs, peut-être pas tout, mais j'essaierai de regarder le Best of Super Junior Series. Puisque tout ça va aboutir au gagnant qui ira défier Will Ospreay pour le titre Super Junior à Dominion. Dominion qui est un peu l'équivalent, on va dire, de SummerSlam pour pour la New Japan Pro Wrestling, et bien je l'achète. On va faire avec Ringside, comme on avait fait pour Wrestle Kingdom, des podcasts Dominion, c'est le deuxième plus gros show, la New Japan Pro Wrestling. Donc on fera un podcast, un pré-show, où on va du coup vous dire tout ce que vous devez savoir pour regarder Dominion sans avoir su la New Japan. Qui est champion de quoi maintenant, c'est quoi les rivalités, c'est quoi la carte, etc. Et on fera bien entendu un podcast après pour en fait débriefer et parler de Dominion, qui a une affiche qui déjà n'est pas bookée totalement, bien entendu, hein, puisque c'est encore dans 3 semaines, mais qui a déjà effectivement une affiche qui tue, notamment Tetsuya Naito contre Chris Jericho, et le retour de Kazuchika Okada contre Kenny Omega, Two Out of Freak Falls, pour la ceinture WGP Heavyweight, ça promet no time limit, donc pas limite de temps, c'est un match qui peut durer 2 heures, allez c'est parti, non, ça peut bien faire 1h30 je pense, ça va être complètement dingo, on va en parler avec Ringside, donc pareil pour savoir quand est-ce qu'on va faire la preview de Dominion, quand est-ce qu'on parlera du Money in the Bank, tout ça, eh bien une seule solution, abonnez-vous là maintenant sur YouTube, vous appuyez abonner à la chaîne, la petite cloche pour avoir les notifications, vous mettez un pouce de like pour la vidéo, un petit commentaire, ça peut être cool, ou sinon vous allez aussi sur Twitter et Facebook, hein, Catch Up CDC, en audio on est sur iTunes et PodCloud, et puis voilà, moi je vous dis un très très bon week-end plein de catch, surtout si vous allez demain voir le show de la WWE, j'espère que ça va être vraiment très 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 bon, et moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine, merci encore à monsieur Tom Galuf Dolovan d'avoir été sur le chat, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, salut.